I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cet épisode de Nos Ciné vous est proposé en partenariat avec Séance Radio, la radio 100% cinéma, et c'est une production Binge Audio.
Binge.
Si on est prêt, on est prêt.
J'ai plus de bière.
On y va, c'est pas grave.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut Cénociné, votre rendez-vous avec le cinéma qui a toujours dû composer entre son amour pour l'histoire avec un grand H et les histoires au pluriel, sachant que la première ne fait pas toujours du bon cinéma et que les secondes sont souvent plus savoureuses quand elles sortent tout droit des imaginaires scénaristiques prolifiques. Ceci étant posé, une curiosité naturelle nous étreint lorsqu'arrive au cinéma un film comme La mort de Staline auquel cet épisode sera consacré. Curiosité, car avoir l'ambition de nous raconter, certes avec une bonne grosse dose de mauvais esprit, la sanglante succession du terrible Joseph Staline dans l'URSS tendu au possible des années 50, ça fait un peu envie. Et pour causer de tout ça, nous avons rassemblé un quatuor d'honorables camarades critiques, Daniel Andreev. Salut Daniel. Lélo Jimmy Baptiste, salut Jimmy. Thomas. Alexandre Arbeau, salut Alex.
Bonsoir.
Et Perrine Kenson, salut Perrine.
Salut Thomas.
Je précise que nous sommes en public au Grand Contrôle et c'est Nos Ciné épisode 132, c'est parti.
Monde de merde, pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
La mort de Staline, donc, le titre est assez transparent, c'est l'histoire de la mort de Staline. Et ouais, précisément, c'est l'histoire mouvementée de la succession du tout-puissant secrétaire général du parti communiste soviétique lors de sa mort en 1953, alors que ses lieutenants, Beria, Khrouchtchev, Malenkov et Molotov, entre autres, complotent à grande vitesse pour récupérer les rênes du pouvoir.
You know, all of you can kiss my Russian ass.
Don't worry, nobody's gonna get killed, I promise you.
C'est inspiré très librement de faits réels, comme on dit. C'est surtout inspiré d'une BD française, oui madame, de Fabien Nuri et Thierry Robin. Le film est signé par Armando Iannucci, qu'on connaît surtout pour être le créateur de l'excellente série politico-comique VIP avec Julia Louis-Dreyfus. Au casting de cette mort de Staline, un ensemble cast de folie, Steve Buscemi, Michael Palin, Andrea Riseborough, j'ai du mal avec les noms aujourd'hui, Simon Russell Bill, Jeffrey Tambor ou encore Olga Kurylenko, qui est également à l'affiche de Dans la brume, auquel nous avons consacré un épisode de Nos Ciné. Qu'en avez-vous pensé de cette mort de Staline, les amis? Je suis obligé de donner la parole au camarade Daniel Andreev, ici présent, sachant qu'il y a un personnage qui porte ton nom quand même, Daniel. Il y a un personnage qui s'appelle Andreev.
Dans la première minute, ouais.
Oui, c'est vrai.
J'ai pensé quand j'ai vu le film, ça m'a ému, mais au plus.
Donc,
au point.
Du coup, j'ai qu'un avis positif. Voilà, c'est bon.
C'est l'histoire de ta vie, en fait.
C'était pas tant l'histoire de ma vie que l'histoire de ma famille. Et la mort de Staline, c'est il faut le remettre dans le contexte, comme on aime bien faire dans Nos Ciné. C'est quand même l'événement majeur de l'histoire de la Russie de cette période-là. Tout le monde à un moment où il se souvient. Moi, j'ai toujours eu droit à ce que je faisais au moment où Staline est mort. J'ai eu droit à énormément ça. Et du coup, j'avais une image de ce qu'était la mort de Staline.
Il buvait sans doute.
C'est pas du tout. Ça ressemble pas du tout à ce que j'imaginais sur la mort de Staline. Et surtout, ça ne s'est pas produit exactement comme ça.
Oui,
quoi.
C'est vraiment inspiré.
Staline, encore, et ça, c'est le côté positif de l'histoire, il est vraiment mort comme un chien dans d'atroces souffrances, et ça, ce film ne le souligne pas assez. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est le pastiche, en fait. Puisque il y a ce moment où, dès le début du film, je me dis, waouh, il y a Steve Buscemi. Et alors,
qui joue Khrouchtchev.
Il joue Khrouchtchev. Il joue Khrouchtchev.
Pardon pour l'accent.
Tu peux le faire tout en russe, s'il te plaît.
Yamagoui, c'est Khrouchtchev. Et donc, du coup.
C'est super sexy, Daniel.
C'est mon arme secrète.
C'est comme ça que tu les as toutes.
C'est comme ça. Et donc, il joue Khrouchtchev. Et du coup, je vois ce mec-là qui a quand même son. Il n'a pas fait le moindre effort pour changer. C'est le même Steve Buscemi avec son accent de Brooklyn. Et c'est ça qui est assez génial, c'est que tous ces comédiens ne se donnent pas la peine de changer qui ils sont. Ils le jouent. Il y a un petit côté. Alors évidemment, on pense au Monty Python, mais c'est l'absurde de Téléchar, quoi. À ce niveau-là, c'est genre.
Meilleure référence possible.
Ils sont en feu tout le temps et ils jouent à fond la caisse. Et évidemment, je pense à Inveloupe. qui est quand même le film de référence
de Yamuchi,
c'est vraiment son film de référence. Alors j'ai préféré Evil Loop parce que Evil Loop est extraordinaire, c'est presque un de mes films préférés de genre dans tous les temps quoi. Mais il y a un jeu de la satire politique, et la satire politique se fait ici par le biais du n'importe quoi en fait. Et du coup je me suis posé la question, est-ce que c'est hashtag too soon? Non, c'est bon, on a le droit de rire sur la mort de Staline, et eux ils y arrivent plutôt bien, voilà.
Très bien, Perrine.
Oui, justement, tu mentionnais In the Loop, qui en effet est une... Enfin, si les gens n'ont pas vu, il faut absolument voir In the Loop, qui est quand même la quintessence de la satire politique. Et vraiment, si on veut connaître le style Armando Iannucci, ça se pose là. Enfin, même, on peut voir VIP, on peut voir Dofikovit ou évidemment Alan Partridge. Enfin, voilà, on est vraiment dans le style.
Et In the Loop est un spin-off de Dofikovit, puisqu'il y a le même personnage de Malcolm Tucker, joué par Peter Capaldi. Donc...
Exactement, voilà, c'est vraiment la poursuite de Dofikovit. Mais ce qui est très fort dans ce film-là, c'est-à-dire qu'il prend un matériel qui n'est pas le sien à la base, donc il adapte cette bande dessinée qui est française, et en même temps...
On ne le dira jamais assez.
Oui, voilà, mais on insiste, c'est français, messieurs, mesdames, c'est français. Mais voilà, il en fait... Il le met à son style, donc c'est-à-dire qu'on retrouve encore une fois ces scènes un peu filmées, caméra à l'épaule, ou même des plans très très posés, où c'est des joutes verbales entre les personnages, sauf que d'un seul coup, contrairement à VIP, contrairement à Dofikovit ou In the Loop... D'un seul coup, là où les batailles se font par les mots, les coups de poignard, les têtes coupées se font par les mots, d'un seul coup, là, ça devient très réaliste. C'est-à-dire que n'importe quelle chose que les personnages peuvent dire, c'est réel. D'un seul coup, si on menace quelqu'un, la personne meurt réellement. Donc, en fait, finalement, c'est là où je trouve très intéressant de la part d'Armando Iannucci, c'est d'avoir su transformer son propre style. C'est-à-dire que c'est un style basé sur le vocabulaire, sur l'art du parler, du mot. Et d'un seul coup, il arrive à le transposer dans le geste et dans l'acte. Et et c'est très surprenant la première fois, parce qu'on se dit, oh mon Dieu, mais en fait, c'est violent. Oui, enfin, en même temps, le régime stalinien, c'était quand même pas particulièrement... c'était pas les bisounours. Donc, en réalité, il pouvait pas se limiter à ce qu'il fait avec VIP. On n'est pas seulement dans le sous-entendu ou dans la diplomatie politique. Ou voilà, on n'est pas dans ce type-là où les mots sont assassins. Là, littéralement, les mots sont gestes. Les mots tuent les gens. Et donc on va tuer littéralement les gens. Et c'est ce que je trouve que c'est la force du film, c'est de savoir basculer en permanence entre l'art du mot et l'art du geste. Et c'est vraiment la force du film pour moi.
Pour rebondir, Alexandre, sur ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a quelque chose qui est très très réussi dans le film, c'est que le film est... Moi, je l'ai trouvé hilarant. Il y a vraiment des scènes à se pisser dessus, dans tous les sens du terme. Mais par contre, il y a une tension...
Attendez, dans tous les sens du terme.
Non, mais il y a une tension qui est... Il y a une tension
c'est dangereux comme film.
Il y a une tension qui est palpable dans certaines scènes de dialogue où c'est difficile de prévoir, même quand c'est des acteurs importants, etc. On n'est pas sûr que le personnage va finir en vie la fin de l'échange verbal. Il y a un tel jeu de... il faut faire attention à ce qu'on dit, on est surveillé, etc. Tout ce que tu peux dire pourrait être utilisé contre toi par la suite. Et de jeu d'assassin, voilà, les mots tuent, ça se retranscrit par un suspense qui est pas si fréquent que ça dans ce genre de comédie-là. Et donc, comme disait Perrine, effectivement, c'est le niveau un peu au-dessus des batailles de mots... qui sont souvent à base de métaphores, d'insultes qu'on voit dans ses précédentes productions et scénarisations. Là, c'est la concrétisation de ce genre de violence verbale.
Jimmy. Cela dit, en fait, moi, c'est pareil, j'ai adoré les dialogues. Je trouve que c'est vraiment un peu le moteur du film. Mais ils ont été faits par avec Yann Martin, qui est c'est également son sidekick sur tous ses autres, projets. Donc, c'est un peu une logique aussi là-dedans.
On s'approche du micro.
Voilà. Mais ouais, voilà, en fait, c'est vraiment le truc, comme on disait, voilà, tout ce qui est le dialogue, le rythme, etc. Après, moi, c'est sur les acteurs aussi, le truc se repose aussi beaucoup sur les acteurs. Et même des fois, c'est aussi ce qui dessert un peu le film. C'est-à-dire que, les acteurs sont tous très très bons. Et comme on l'a dit, Steve Buscemi, Jeffrey Tambor, qui est genre dégoulinant, saumâtre, quoi. Enfin, c'est vraiment. Il y a Michael Palin qui est jamais très exceptionnel, mais qui est quand même bon. Et il y a Paddy Considine que j'aime beaucoup et qui est sous-employé, qui est Andreev d'ailleurs au début du film. Et par contre, il y en a certains qui prennent vraiment beaucoup beaucoup plus de place, ou qui et d'autres qui sont vraiment en retrait, quoi. Notamment Andrea Riseborough qui mériterait peut-être d'avoir le quadruple de répliques, quoi. Tellement quand elle est là, elle est vraiment bien, quoi. Et on le voit assez peu finalement. Par contre, Jason Isaacs, il envahit un peu l'espace quand il joue le général Zhukov, c'est ça? Voilà. Et
on a un consultant.
Tout le monde me demande est-ce qu'on prononce comme ça.
Consultant comme vous sentez. Hein.
Moi je m'essaierai pas. Hein. Franchement, je prononce pas de mots.
Et voilà, donc lui quand il arrive sur ces scènes, il est un peu trop présent, quoi. C'est-à-dire, et celui qui a vraiment, c'est Simon Russell Beale qui a vraiment le rôle du film, qui est là pour le coup pas envahissant, mais qui est vraiment très 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 présent, même s'il est un peu moins hard que dans la BD en fait.
Il est formidable. Il joue Beria. Et moi, cet acteur-là, je confesse que... Ou alors, vraiment, second rôle, mais j'avais...
Berrien n'est pas un acteur, il a vraiment existé.
Oui, oui. Non,
je parle de Simon Russell Beale.
Qui est un acteur de théâtre.
Voilà, qui est un acteur shakespearien, qui a fait beaucoup de... Voilà,
on l'a quasiment jamais vu au cinéma. C'est vraiment un visage très inconnu, mais je pense que c'était une volonté de la part de
il ressemble à Michel Sapin. C'est un ministre sous l'ère François Hollande, vous connaissez peut-être.
Pour les plus jeunes.
Ah oui, c'est vrai qu'il... Putain, c'est vrai. Non, mais il est en soi, mais c'était une volonté aussi de la part de Iannucci, je pense, de prendre un visage plus inconnu en tout cas que les autres, c'est-à-dire d'un seul coup on s'imagine que Beria c'est lui et on a vraiment peur quand on le voit arriver dans une scène, quoi.
Il y croit en fait, c'est ça qui est assez faux. Je parlais de Steve Buscemi qui est venu avec son background de New-Yorkais de Brooklyn, mais ils sont tous comme ça, enfin c'est assez sidérant en fait, parce que il y avait Palin, donc Palin lui il joue comme s'il était à la BBC, quoi. C'est assez foudroyant en fait, tous ces différences de style. Et du coup alors je me demande qu'est-ce qui fait la cohérence en fait de ce film, et en fait je me suis dit ça fait penser un peu à du Sorkin mais sans morale, parce que chez Sorkin il y a toujours une espèce de morale, tous les personnages ont une espèce de motivation. Ici la seule motivation des personnages c'est de rester vivant à la fin du film, ce qui donne au film un petit côté battle royale du monde politique en 1953. C'est assez rigolo en fait. C'est vraiment, vraiment, il y a un truc. Tu te demandes, est-ce que ça va finir exactement comme dans la vie ou pas? Non. Ils incinèrent pas des cadavres dans la rue. Enfin, non. Mais il y a des émeutes quand même qui sont mises dans le film. Genre, et alors que c'est pas exactement comme ça que ça s'est produit. Mais du coup, je me demande, est-ce qu'on pourrait pas faire un monde parallèle, une véritable uchronie dans lequel le monde de Inveloop se croisent et expliquer les pourquoi. Est-ce que c'est pas finalement In the Loop Origins qui est en train de se passer? Est-ce que
In the Verse.
Mais c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'en plus ce film a été réalisé avant donc l'élection évidemment de Trump.
Oui.
Et il y a un énorme parallèle et évident.
Et le film a été interdit en Russie. Et je crois en Azerbaïdjan et au Kazakhstan.
Ah bah évidemment les républiques.
Oui, enfin voilà.
Les anciennes républiques.
Les anciennes républiques.
Mais c'est évident, évident parce que Staline provoque encore énormément de passion en Russie. Il y a toute une génération de gens qui ont pleuré la mort de Staline. Ma grand-mère, qui pourtant est réfugiée politique, elle a zéro affect pour Staline, elle m'a dit mais tu t'imagines pas la pression qu'on avait à être malheureux pour cette personne. Et je l'ai ressenti à cette scène où ils sont tous face au cadavre et ils sont pas encore en mesure spirituellement d'accepter le fait qu'il soit mort, et ils sont en train de le nier eux-mêmes en disant non, il est pas mort alors qu'il est
c'est vrai que c'est le sketch d'un petit python sur le perroquet, quoi.
C'est qu'un putain de cadavre,
he's not dead, he's resting.
Et vraiment il y a vraiment un truc qui se passe à ce moment, à partir du moment où il décède, où tu comprends que la rivalité est en train de s'installer vraiment. Si vous avez une comédie à voir pas française, vraiment, je vois quoi.
Bon, une fois.
Et d'ailleurs, en parlant de comédie pas française, non seulement le film est adapté d'une BD française, mais il est produit par des Français. Ah. Et c'est ça que je trouve assez formidable avec ce film, c'est que les producteurs qui ont acheté les droits de la comédie, est-ce qu'on doit s'en féliciter ou pas, vu le résultat final? Oui.
C'est quoi d'ailleurs?
Bah, les mecs sont allés produire, ils sont directement allés chercher Iannucci, parce qu'ils savaient, c'était évident, que compte tenu de son background, il allait faire quelque chose de bien avec ce matériau de base. Mais comme...
Je mets juste une précision, ce que tu as dit, c'est qu'ils sont allés chercher Iannucci, mais en plus, non seulement ils sont allés le chercher au moment où il était en train de faire la troisième saison de VIP, donc il n'avait pas le temps parce qu'il allait démarrer la quatrième, et il a dit mais je peux pas le faire, parce qu'ils ont dit pas de souci, on t'attend.
C'est
et
ça.
Ils ont attendu Iannucci parce qu'ils savaient que c'était la bonne personne pour faire ce
exactement.
Film.
Exactement. Alors je pense qu'on peut les remercier. Enfin, ils ont une idée de génie et les producteurs, et donc du coup ils ont accompagné, ils ont attendu un an qu'il soit disponible, et le résultat est ce qu'il est. Mais en même temps, comme le film ne suit, et c'est une satire, c'est pas très réaliste. C'est des acteurs anglophones, certains britanniques, certains américains qui gardent, comme le disait Daniel, leur accent qui de Brooklyn, qui de Birmingham.
Ils jouent à mort là-dessus.
Ils jouent à mort là-dessus.
L'argot écossais, l'accent du Yorkshire, c'est vraiment.
Oui, mais en fait ça a du sens en vrai. Pour moi, ça a du sens sincèrement de garder tous ces accents brooklyniens et britanniques, chacun dans sa région. Pour moi, ça a du sens parce que le film est quand même, au bout du compte, un film aussi sur le fascisme, un film politique. Hein, toute l'œuvre d'Armando Iannucci est aussi politique. Et au bout du compte...
Qui est écossais, hein, comme son nom l'indique pas du tout.
Comme son nom l'indique pas du tout, ce type est écossais. Et ça s'entend quand il parle, par contre. Mais en soi, pour moi, c'est un film qui dit que tout simplement, le fascisme n'a pas de barrière. Et que peu importe l'accent, peu importe la langue qu'on a d'origine, donc ok, ils parlent tous anglais, mais par exemple, Olga Ourilenko... Enfin, comment elle s'appelle ? Kurilenko, merci. J'avais Ourilenko, n'importe quoi.
C'est la seule qui a un accent authentique, en fait.
C'est la seule qui a un accent authentique, pour le coup. Et donc, en fait, finalement, cette pluralité des accents montre bien que le fascisme n'a pas de barrière de langue, n'a pas de barrière, en tout cas, elle n'est pas liée aux frontières. Le fascisme, donc en fait, il ne s'embête pas à ce que des acteurs s'amusent à imiter l'accent russe, qui est horrible.
Alors, en tant que russe, j'ai quand même une petite nostalgie pour tous les films des années 80 avec les Russes avec des accents teubés.
Sean Connery,
tous les James Bond, évidemment. Mais quand même, ça reste quand même un film beaucoup moins insultant que, par exemple, Octobre Rouge, qui, lui, ne se donne même pas la peine. Ils inventent un accent, mais il y a pas une personne qui parle russe, il n'y a pas un mot russe prononcé.
C'est le principe aussi du coup de Mann.
Du coup, là, c'est l'acceptation totale que finalement ces gens sont en train de jouer la comédie. En fait, c'est vraiment ça. Et le fait qu'ils y croient, en fait, c'est surtout ça. Ils sont à fond dedans et c'est ça qui est.
Et si je peux juste finir, parce que j'avais quand même un soupçon, quand même une vague réflexion à finir sur cette histoire de francophones et de producteurs machin, etc. C'est qu'en fait, comme justement, c'est des acteurs américains et anglais, britanniques qui jouent les rôles, ça, on aurait très bien pu imaginer, ça n'aurait pas coûté un budget fou, une production française. Et là, je me suis dit, mais en fait, qui aurait pu faire ça si les producteurs n'avaient pas voulu exporter, faire appel à Yannick, etc. Et je vois que deux personnes qui auraient pu faire quelque chose en France, et du coup maintenant, c'est un peu un fantasme, tu vois.
Danny Boone.
Non, par exemple, je ne pensais pas à Danny Boone. Je pensais à trois personnes, mais ça fait que deux choix, vous allez comprendre pourquoi. Nicolas Bruno, ben là, parce que la bureaucratie, tout ça. Donc, Nicolas Bruno de Message à Caractère
Normatif. Je connais tes petites perversions. Voilà.
Ou un choix un peu plus obvious, Azanavicius, quoi. Qui aurait pu effectivement, on l'a vu, en plus non seulement allier l'humour via les dialogues, via l'absurde, mais en plus faire réussir là ce que Iannucci n'a pas non plus trop fait, parce qu'il est resté dans son style un peu caméra à l'épaule, c'est en plus avoir une patine visuelle assez chouette par-dessus.
Périne ?
Et ce que je voulais dire, c'est que le film en soi est terriblement, assez pessimiste en soi. Il y a quelque chose d'assez très pessimiste où finalement ça se termine pas si bien pour qui que ce soit. Puis si on connaît le reste de l'histoire, bon, on peut pas dire que ça termine particulièrement bien
pour les Russes.
Enfin voilà, mais ce que je veux dire, c'est que en soi, en sortant du film, moi j'avais cette sensation, je me dis oh là là, disons, il est vraiment pas positif sur la politique en général. Même quand on voit le reste de ses œuvres, il a quelque chose de très moqueur par rapport à la politique et pas du tout positif. Et en même temps, je me dis que si, il y a quelque chose où il a une lueur d'espoir, et cette lueur d'espoir, elle passe par Olga Kurylenko dans le film, en réalité, c'est tout est dans la première scène. Si vous regardez juste la première scène du film, de toute façon, la première scène résume tout le film pour moi. Et il y a cette séquence où ce personnage, Olga Kurylenko, qui glisse un message dans un enregistrement qui doit aller directement à Staline. Et ce message, c'est la dernière chose que Staline verra avant de mourir. Et en soi, ce que dit Armando Iannucci, c'est que l'art est une forme de résistance. L'art, tout simplement, c'est la résistance. L'art peut continuer. L'art est une lueur d'espoir. Et je trouve que c'est très fort ce qu'il raconte à travers ça. C'est très insignifiant dans le film. C'est peu de choses, mais pour moi, c'est le vrai message et la vraie lueur d'espoir de tout le film, en fait.
Jimmy, il y a juste un tout dernier truc. Il y a quand même une mise en abîme qui est quand même assez vénère dans le film.
Ah, c'est que tu veux parler.
C'est que Jeffrey Tambor, il a eu des petits problèmes de harcèlement. Il a été retiré de tout le matériel promotionnel du film. Et le générique de fin, c'est des références à la photo de, non pas Staline, mais Lénine, où il est coupé, etc. Mmh. Où on voit des gens avec...
Il y a un truc qui est arrivé à plein de gens dans l'histoire.
Tout à fait. Et en gros, il y a juste ce truc-là qui est assez drôle.
C'est incroyable.
Ouais, c'est plutôt incroyable. Voilà. C'est vraiment genre, on a ce mec qui est dans le film et qui est coupé de tout le matériel promotionnel parce que justement, il est blacklisté en ce moment, quoi.
Voilà. Donc ils l'ont supprimé du générique.
Il est au générique, mais il est supprimé toutes les affiches, etc. C'est Jason Isaacs qui a pris sa place.
Et dans le générique, en fait, juste pour expliciter ce que dit, il fait référence à la propagande stalinienne où en fait tu coupais les montages, grossiers. Et en gros, ce qui est hallucinant, c'est que le film est sorti en Angleterre, donc c'est la version qu'on a en France, je pense. Il n'y a pas eu de montage différent. Le film est sorti donc fin octobre, et les allégations sur Tambor ont commencé à sortir post-Weinstein, donc en novembre. Donc c'était le générique tel quel, et c'est vrai qu'à posteriori, ça n'a pas l'impression que Iannucci nous fait une référence à Kevin Spacey viré du film de Ridley Scott et de Tambor lui-même de Transparent saison 4 ou 5, je ne sais plus. Bref, c'était assez divinatoire et très méta.
Et bien trouvé. Très bien. Avant de se quitter, chers amis, on va faire comme d'habitude une petite tournée de recommandations dans le registre qui vous plaira. On peut rester évidemment dans des univers proches de cette mort de Staline, mais comme d'habitude, vous êtes totalement libre. Jimmy, tiens.
Moi, j'ai pris Le Cher Disparu de Tony Richardson, ça s'appelle The Loved One en anglais, un film de 65. Et c'est un peu le Docteur Follamour du business funéraire, en fait.
Très bien.
C'est un jeune.
C'est un truc de niche, là, pour le coup, le Docteur Follamour du business.
C'est un film des années 60, qui a très bien marché. C'est un Anglais qui arrive à Los Angeles, qui veut devenir poète. Mmh. Et ça commence comme une satire du milieu du cinéma, puisqu'il rencontre son oncle, etc., chez qui il va squatter. Et en gros, il se pose là et l'oncle meurt et en fait là il se met à bosser dans les funérariums et c'est vraiment je vous raconte pas plus, mais c'est vraiment assez dingue comme film. C'est pas très connu effectivement, mais c'est il y a Rod Steiger dedans qui joue une espèce d'obsédé sexuel avec une mère abusive. Enfin, c'est assez fou quoi, vraiment un super film.
Périne.
Eh bien, au risque de pas du tout être original, parce qu'on l'a mentionné un petit peu plus tôt, mais j'avais envie de parler de In the Loop, qui pour moi est vraiment une œuvre. Ça va intéresser personne, mais c'est vraiment quelque chose de très personnel. C'est que moi, je l'ai découvert dans un festival, et c'est resté quelque chose de très très fort pour moi. Et le film, je l'ai vu 5 fois. Et je n'ai toujours pas compris la fin, pour la bonne et simple raison que je ris tellement pendant tout le film que j'arrive pas à suivre l'intrigue. J'ai tellement ri. Je trouve que c'est l'une des meilleures comédies que j'ai jamais vues de toute ma longue vie.
Et tu as déjà 67.
À peu près, voilà, mais plutôt pas si mal conservé.
Ouais, ça va.
Mais c'est juste que c'est vraiment, pour moi, ça me fait. Je trouve que c'est vraiment en termes de, c'est un summum en termes de satire politique, en termes de timing comique. C'est la quintessence de ce que c'est faire Armando Iannucci. Et si on veut avoir une porte d'entrée sur le travail de cet homme, et c'est vraiment pour moi ce film-là qui est la meilleure chose. Donc c'est un film sur une affaire politique entre les États-Unis et l'Angleterre autour de la guerre en Irak, et c'est absolument extraordinaire.
Alexandre.
Pour rester dans le Iannucci-verse, Armando Iannucci, c'est un comparse de longue date de Steve Coogan. Ils ont créé à deux le personnage culte outre-manche de Alan Partridge, qui est donc un journaliste de télé, radio locale, incompétent, veule. Enfin, c'est hyper drôle. Et ce mec-là a eu plein d'incarnations, que ce soit en série, en web-série, en bouquin, en show radio, etc., etc. Et il a eu sa version cinéma en 2013 dans un film qui s'appelle Alan Partridge, Alpha Papa, qui est vaguement, je crois, officiellement inédit en France, ou la ressortie directement en VOD. En tout cas, il n'était pas sorti par la case cinéma en salle, mais il se trouve facilement. Et donc, Alan Partridge, Alpha Papa, c'est une comédie avec sur fond de prise d'otage complètement débile, dans laquelle Alan Partridge, Steve Coogan, va donc devoir sauver les victimes potentielles. C'est très drôle, et je pense que toutes les différentes plateformes qui font du Partridge, qui revient avant la fin de l'année sur BBC Two, et une nouvelle série mise en production, c'est à voir.
Oui, ça vaut le coup.
À lire, à écouter.
Tout à fait. Daniel, camarade Andriev.
Pour ma part, moi, c'est Perrine qui m'a inspiré ma reco. Ceci dit, je recommande aussi In the Loop, qui est aussi une de mes comédies.
Je me doute.
Comédie préférée, j'adore In the Loop, plus que de raison. Je trouve que c'est extraordinaire.
Chef d'œuvre.
Et je trouve que rien n'y rend justice, même pas les sous-titres, parce que les sous-titres, ils ont
un temps de retard, en fait.
Ils sont à la masse, quoi. Tu vois, 80 signes, ça peut pas. Tu peux pas faire passer tout ça. Et en fait, je me suis posé la question, est-ce qu'il existait ? Parce que là, on est dans le pastiche, on est dans la parodie. Le pastiche, la parodie, n'existait pas, en fait, dans l'Union soviétique. C'était littéralement interdit. On ne pouvait pas imaginer critiquer un président, critiquer le chef du parti. C'était impossible. Beaucoup en ont fait les frais, sont allés au goulag. Sauf une personne, en fait. Je me suis vraiment posé la question. Il y a une personne, en fait, qui a pu affronter, en fait, le joug communiste, et c'est un écrivain et poète qui s'appelle Kornéi Tchoukovski. Désolé, je parle d'un écrivain, ça, là, d'un coup.
C'est génial.
Et Kornéi Tchoukovski est très connu des enfants, parce qu'en fait, il écrivait beaucoup de contes pour enfants. C'est à peu près, c'est des contes de La Fontaine, presque. C'est vraiment de la fable, c'est vraiment, c'est des grosses métaphores. Et il y en a certaines qui sont vraiment des métaphores très évidente à Staline, et c'était un contemporain de Staline. Il a à peine vécu plus longtemps que Staline, et je me suis toujours demandé
comment il a fait.
Comment il a fait, mais en fait, je crois qu'il était devenu si populaire et si puissant que même Staline n'a pas pu le toucher à Karnet Chukovski. Donc, si vous avez, il y a quelques-uns de ses bouquins qui sont traduits en français. C'est vraiment un classique de la littérature du début du XXe russe. Et lui a passé la censure, en fait, parce que la censure était féroce, et ça passait quand même, parce qu'il utilisait le biais du pastiche, de la métaphore, et donc les armes qu'utilisait La Fontaine.
C'est excellent comme recours, ça, Daniel Andreev.
Quelle classe. Ça me donne envie de t'offrir des bouquins pour ton anniversaire. C'est tellement
beau. Jimmy, tu voulais rajouter quelque chose, je crois.
Ouais, c'est-à-dire que j'ai pas d'anecdote rurale pour ce film.
Ah oui, c'est par contre, je suis assez déçu.
Mais par contre, j'ai un soir, je suis allé boire un verre avec deux Américains que j'ai rencontrés par le biais de ma femme, etc. Et en fait, ils étaient avec un Indien. L'Indien s'appelait Staline Joseph. C'était son prénom. Et Joseph, son nom de famille, voilà. Mais c'est véridique.
Est-ce que je peux faire une anecdote du terroir.
Vas-y.
Mon grand-père s'appelait Joseph et c'était un immigré russe et il parlait très très mal français. Et dès qu'il allait voir quelqu'un français, genre un médecin, il lui dit hey, mais Joseph comme Staline. Et là il faisait oui Joseph comme Staline et il remontait sa manche et il montrait sa grande blessure sur son bras gauche. Il disait et ça c'est Stalingrad. Et ça mettait tout de suite l'ambiance avec les médecins. Dieu le bénisse.
Tout en tension, tout en détente. C'est bien. Et notre temps est écoulé. Merci à tous les quatre. Merci à Seb, à la technique. Merci au public, au grand contrôle pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous aussi voulez venir nous voir. Et puis en attendant, on vous dit à très vite.
Et tout de suite, un message de notre partenaire Séance Radio.
J'adore mon boulot.
Vous êtes la crème de l'aristocratie française.
Vous avez compris ce que je vous ai dit?
Oui, cancer du poumon, inopérable.
Next épisode, c'est le nouveau rendez-vous 100% série de Séance Radio avec Charline Roux et son équipe.
On ferait mieux de rebrousser de main, les gars.
J'ai fait du mal. J'ai compromis des missions.
Des policiers français, que les acheter, pas les tuer.
Next épisode, le mardi à 19h sur Séance Radio et disponible sur toutes les applications podcast.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.